On plonge aujourd'hui dans une histoire fascinante, une histoire qui sent un peu le papier jauni des cartes postales et l'effervescence des fêtes d'antan.
Ah oui.
On va parler d'aérostats, de ces ballons majestueux qui ont flotté dans le ciel de Rodez. Mais ce n'est pas juste une histoire de technologie, c'est bien plus que ça.
C'est le récit de comment un prodige scientifique est devenu une éphémérelle, une attraction de foire avant de disparaître complètement, une chronique du divertissement populaire.
C'est exactement ça. Et pour nous guider, on a une source formidable, un article qui s'appelle « Les aérostats s'invitent à Rodez ».
Écrit par Gilbert Régour, c'est une vraie pépite tirée du bulletin du Cartoclub Aveyronnais.
Il faut d'ailleurs saluer le travail de mise en page du rédacteur en chef Guy Mazard qui nous plonge vraiment dans l'ambiance.
Tout à fait, c'est la micro-histoire dans ce qu'elle a de meilleur. On part de quelques documents locaux, des cartes postales, et on reconstitue toute une époque.
Et justement, l'article nous rappelle que, bien avant le grand spectacle des années 20, il y a eu un premier acte, un exploit fondateur plus d'un siècle auparavant.
Oui, il faut commencer par là, par l'étincelle originelle. C'est essentiel pour comprendre la suite.
Alors, allons-y. Transportons-nous en 1784. Là, on n'est pas du tout dans la fête foraine, on est dans l'aventure scientifique pure.
Exactement. Le personnage central, c'est l'abbé Charles Carnus, un homme d'église, mais surtout un homme de science, professeur de philosophie à Rodez.
Et la date est importante, je crois.
Crucial. On est le 6 août 1794, moins d'un an après les tout premiers vols historiques des frères Montgolfier. C'est dire si on est à la pointe.
On est vraiment dans l'avant-garde. Et cet engin, il ressemblait à quoi? J'imagine qu'on est loin des montgolfières qu'on voit aujourd'hui.
Très très loin. L'article le décrit comme une sphère de presque 17 mètres de diamètre.
Ah oui, quand même.
Mais le plus fou, c'est sa fabrication, entièrement locale à Rodez. C'est une structure en toile, recouverte de papier d'impression.
De papier?
C'est incroyable.
C'est de la haute technologie de l'époque, mais avec un côté presque artisanal. On fait avec les moyens du bord.
Et l'abbé Carnus ne part pas tout seul, si je me souviens bien.
Non, il est accompagné de son confrère, un certain monsieur Lucce. Et leur but, ce n'est pas d'amuser la galerie, c'est une mission scientifique.
Ils veulent prendre des mesures, observer.
Voilà, comprendre les lois de la physique en action. C'est de l'expérimentation pure. Et ce vol pionnier, comment ça se passe? Ça marche comme prévu?
Mieux que prévu, apparemment. Les récits de l'époque parlent d'une ascension, je cite, « presque verticale, très majestueuse ». Le ballon monte à une altitude folle pour l'époque.
C'est-à-dire?
Plus de 2500 mètres. Pour un engin en papier et en toile, c'est juste prodigieux. Et le vol dure une trentaine de minutes.
Et l'atterrissage? C'est souvent là que ça se complique.
À l'atterrissage, c'est la meilleure partie de l'histoire. L'article nous donne un détail savoureux.
Je vous écoute.
Le ballon descend doucement et se pose tout en haut d'un petit arbre. L'abbé Carnus, visiblement agile, descend en s'agrippant aux branches.
D'accord, la scène est assez cocasse.
Attendez, ce n'est pas fini. Une fois que l'abbé est au sol, le ballon, qui est maintenant plus léger...
Bah oui, sans son poids.
Tout seul.
L'abbé a dû rester pantois.
On peut l'imaginer. Le ballon fait un petit vol supplémentaire de 5 minutes et va se poser tranquillement dans une prairie un peu plus loin.
C'est une anecdote géniale. Et les gens de Rodez, comment ils réagissent à ça?
C'est un triomphe. Un triomphe absolu. On les appelle les intrépides aérostiers. La garde bourgeoise est envoyée pour les escorter en héros. Ce n'est pas un spectacle, c'est une célébration civique.
La ville est fière de ses pionniers.
Exactement.
Mais alors, quand les ballons reviennent, presque 140 ans plus tard, l'ambiance n'est plus du tout la même. On est en pleines années folles.
Le contraste est saisissant, oui. On passe de la science au divertissement de masse. L'article nous emmène aux fêtes du Faubourg en août 1923.
Et là, l'aérostat n'est plus une invention locale.
Non, c'est une attraction qu'on fait venir, une attraction professionnelle.
La vedette de la fête, ce n'est plus un abbé et philosophe, j'imagine.
Non, la vedette, c'est un ballon qui a un nom. Le Petit Parisien. Il est piloté par un certain monsieur Vermandet.
Le Petit Parisien, on sent tout de suite qu'on a changé d'époque. On est dans le sponsoring, le branding avant l'heure.
C'est tout à fait ça. Et pour montrer l'importance de l'événement, le passager qui accompagne le pilote, ce n'est autre que l'adjoint au maire, monsieur Mazard.
Ouais, donc c'est un événement officiel, validé par la municipalité.
La ville s'associe au spectacle, complètement.
Et la foule de 1923, elle est aussi enthousiaste que celle de 1784?
L'enthousiasme est immense, oui, mais l'émotion a changé. On n'admire plus un exploit scientifique, on consomme un spectacle.
On vient pour voir le show.
Exactement. Les journaux parlent d'un envol doux et majestueux sous les ovations. C'est un énorme succès populaire.
Et un tel succès, ça donne forcément envie de recommencer, non? Le comité des fêtes a dû se dire qu'il tenait un bon filon.
Logiquement, oui. 2 ans plus tard, en août 1925, pour les fêtes des quartiers Saint-Cyrice et de la gare, on reprend la même formule.
Même pilote, même sponsor.
Quasiment. Même pilote, Vermoncel, et toujours un ballon du petit Parisien. La promesse est la même.
Mais est-ce que la magie opère une seconde fois?
Et c'est là que l'analyse de l'article est vraiment fine. Gilbert Régour pointe un détail qui dit tout.
Lequel?
Cette fois, les photographes ne se sont pas déplacés. Il n'existe presque aucune carte postale de l'événement de 1925.
Attendez, ça veut dire qu'en 2 ans à peine, voir un ballon décoller, ça ne suffisait plus. C'est passé de mode aussi vite.
C'est fou, n'est-ce pas? C'est une illustration parfaite de la mentalité de l'époque. Une soif de nouveauté, un public qui se lasse à une vitesse incroyable.
Le spectacle avait déjà un goût de déjà-vu.
Voilà. La fascination s'est émoussée, la simple ascension est devenue obsolète.
Donc il faut se réinventer. Et si le public se lasse d'un ballon qui vole, j'imagine que pour le faire revenir, il faut ajouter du danger.
C'est exactement l'escalade à laquelle on assiste. On arrive au bouquet final de cette courte épopée, les fêtes du pays Rouerga, en juillet 1927.
Et là, on change tout.
On change complètement de paradigme. Le ballon n'est plus l'attraction, il devient un accessoire, une scène volante pour des numéros de haute voltige.
Les stars ne sont plus les ballons, mais les humains qui prennent des risques suspendus en dessous.
Des professionnels du risque, des casse-coups. L'article nous les présente. Monsieur Justin Haussmann, 26 ans, ancien mécanicien aviateur, reconverti en parachutiste.
Et il n'est pas seul.
Non, il y a aussi mademoiselle Emilienne Davillers, une jeune femme parachutiste et trapéziste.
Une trapéziste sous un ballon?
On est carrément dans le cirque aérien.
Le programme est d'ailleurs en 8 numéros, c'est très scénarisé. Il y a le gonflement, une descente en parachute de Monsieur Haussmann.
Et le clou du spectacle, j'imagine.
Le fameux numéro de trapèze aérien de Mel Davillers, exécuté à 10 mètres sous la nacelle.
Je n'ose même pas imaginer le courage ou l'inconscience qu'il fallait. Les journaux de l'époque ont dû se fagaler. Ah oui, les chroniques sont savoureuses. On y apprend que le parachutiste Justin Haussmann a fini son saut dans un arbuste sans se faire aucun mal.
Ça a dû ajouter un peu de piment au spectacle.
On peut imaginer. Et mademoiselle Davillès, elle, a réussi à se poser juste devant les tribunes officielles. Accueil triomphal, bien sûr.
Et cette fois, les photographes étaient là.
Ah, ils étaient bien là. Et c'est là qu'on fait le lien avec le Cartoclub. L'événement de 1927 a été abondamment documenté par le photographe Paul Neuriga.
Donc on a des images, des preuves.
On a une série d'une douzaine de cartes photos qui sont des trésors aujourd'hui. C'est grâce à elles qu'on peut raconter cette histoire.
D'accord, donc on est au sommet du spectacle. Acrobatie, danger, public en délire. Et pourtant, c'est la fin. C'est la dernière fois qu'on voit des aérostats à Rhodes. Comment c'est possible?
C'est la grande question. Et la conclusion de l'article est très éclairante. La première raison, c'est que le ballon lui-même a perdu sa magie. Il n'est plus qu'un support.
Un simple monte-charge glorifié, comme on disait.
C'est un peu ça. Et la deuxième raison est peut-être encore plus intéressante. D'autres formes de divertissement, plus locales, commencent à prendre le dessus.
C'est-à-dire?
Le programme de 1927 précise bien que, entre les numéros aériens, il y aura des concerts et des mouvements gymniques.
Et qui assurait ces intermèdes?
C'est ça qui est fascinant. Des groupes locaux, les élèves de l'école supérieure, les sociétés de musique de la ville. C'est la communauté qui monte sur scène.
C'est incroyable! Le grand spectacle importé de Paris se fait finalement voler la vedette par la chorale et le club de gym du coin.
Spectaculaire, vers des spectacles collectifs produits par des gens d'ici. C'est la fin d'une ère.
Quel parcours en moins de 10 ans. On part de l'exploit scientifique, on traverse les années folles avec le ballon réclame, pour finir avec le ballon chapiteau pour acrobate, avant que tout ne s'arrête.
C'est une illustration parfaite de l'évolution du spectacle. Ce qui naît comme une merveille en soi devient vite un outil pour une autre forme de spectacle, avant d'être supplanté.
Et ça amène une réflexion sur notre époque, non? L'article se termine sur cette idée que les goûts ont évolué vers des groupes locaux. À notre ère de divertissement mondialisé, de spectacle high-tech, est-ce qu'on ne voit pas un mouvement de balancier similaire?
C'est une excellente question. Quelle est la grande attraction d'une fête de village aujourd'hui? Est-ce un show de drone, une star payée à prix d'or? Ou est-ce le spectacle de danse de l'école, le concert du groupe du coin?
Et qu'est-ce que ce choix nous dit sur ce que l'on cherche collectivement dans un moment de fête?
Exactement. C'est une pensée qui prolonge parfaitement cette brève et intense histoire des ballons de Rhodes.